Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Camille Pastier et Mathilde Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là parce que vous avez gagné Europe en 17 pour le projet de Bernay, Terre de Normandie. Et je vous laisse présenter votre projet et l'équipe.
Ça marche. Donc le projet s'intitule « En sueur » au pluriel, « Chronique » au pluriel d'une vallée transpirante. Les membres de l'équipe sont donc Pierre Bouilleul, qui est architecte, Camille Pastier, moi-même, donc architecte, Mathilde Lecomte, urbaniste, architecte, et Julie Beauté, philosophe, et Léna Cissé, paysagiste. Donc ça, ce sont les membres associés. Il y a aussi eu un collaborateur, Jules Valentin Boucher, qui est également architecte.
Alors, ça fait plein de matières grises autour d'un même projet. Mais on va commencer par des questions sur le goût. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif?
Alors, bonjour, moi je suis Mathilde Lecomte, donc architecte urbaniste, membre de l'équipe En sueur. Alors moi, les plaisirs de la table et... Les mets que j'apprécie, ce sont les plats mijotés, parce que j'adore leur odeur et toute la phase de préparation, qui me plonge un peu dans une atmosphère, une ambiance assez particulière. Donc moi, mon souvenir un peu gustatif fort, c'est pas tant le goût, c'est plutôt le moment où on sent un peu l'odeur d'un rôti au four, des légumes qui cuisent à la vapeur. C'est un souvenir de chez ma grand-mère. Et un peu toute la... l'ambiance un peu réconfortante dans laquelle ça me mettait. Donc voilà, ça m'évoque à un moment de famille assez...
Intense,
voilà.
Bon. Et vous, Camille?
Alors moi, si je commence par la fin de la question, avez-vous un souvenir gustatif? Je penserais à un souvenir qu'on m'a raconté et qui me paraît... être un souvenir que j'ai vécu, mais en fait, j'avais un an, donc je ne m'en souviens pas, mais c'est vrai que c'est resté. Il paraît que je mangeais très tôt du Roquefort, et c'est vrai que c'est, que c'est un fromage que j'affectionne tout particulièrement, et je pense que ça disait beaucoup de ma gourmandise et de mon goût pour tester les choses. Et après, pour répondre à est-ce que j'ai... un mets préféré, je dirais que le plat auquel je pense tout de suite, c'est le gratin dauphinois, parce que c'est un plat que j'apprécie tout particulièrement, qui est simple, fondant, généreux, et qui se partage en famille ou entre amis, qui est peu coûteux. Et c'est vrai que l'odeur qui s'en dégage avec un peu de cannelle et de... pas de cannelle, pardon, de noix de muscade et d'ail... ça évoque.
C'est divin.
Voilà, divin. Ça ouvre l'appétit.
Ça réchauffe.
Oui.
On va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Alors, on commence par...
Donc moi, j'ai grandi à Laval, en Mayenne, qui est une ville de taille moyenne aux portes de la Bretagne. Vers l'âge de 14 ans, j'ai déménagé en Bourgogne, à Dijon, où j'ai fait mes années de lycée. C'est à ce moment-là un peu que l'idée de faire de l'architecture m'est venue. Notamment quand je prenais le train pour retourner à Laval voir mon père qui vivait toujours les week-ends et où en fait je traversais Paris pour aller de la gare de Lyon à la gare Montparnasse, je prenais le bus. Et en fait je me souviens vraiment avoir été un peu fascinée par toute cette vie intense, urbaine, architecturale, de voir un peu tous les corps un peu presque mécaniques quoi, et rapides. C'est vrai que là où je vivais, il n'y avait pas toute cette intensité urbaine. Et je me souviens m'être dit que j'avais envie de participer à fabriquer ces territoires de vie pour les vivants. Et que donc j'ai raconté cette histoire pour postuler à Malaquais, où j'ai fait mes études d'architecture. C'était un des éléments du concours de faire une lettre de motivation. Donc j'ai, la lettre de motivation, c'était raconter cette traversée à Paris. Et ensuite, c'est quelque chose qui m'a un peu guidée tout au long de mes études, parce que j'ai beaucoup travaillé au travers du récit urbain. Donc d'une approche un peu sensible du territoire et une façon de le raconter. Et j'ai d'ailleurs passé mon diplôme d'architecture donc à Malaquais avec Marc Armango de l'agence AWP, qui était mon directeur de diplôme, sur la rumeur de la construction d'une gare donc en zone périurbaine de Laval. Et en fait, j'ai un peu exploré ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Donc c'est comment l'annonce d'un événement fait qu'il se produise. Et comment ça peut être pris comme un outil d'urbanisme, de travailler un peu sur les systèmes de croyances, et qu'est-ce que ça fabrique comme territoire aujourd'hui.
Camille.
Oui. Alors moi, je suis née à Rouen, donc en Normandie, et pourtant j'ai grandi dans les Yvelines, mais Rouen, c'est pas anodin, c'est que c'est le lieu où j'allais tous les week-ends, donc chez mes grands-parents. Justement à Bernay, terre de Normandie. Enfin, Brionne plutôt, mais sur le territoire de l'intercommunalité de Bernay. Jusqu'à mes 16 ans, je pense que j'y allais au moins deux fois par mois. Donc, c'est vrai que j'avais ce rapport aussi à la ville et à la, une zone moins urbaine, qui est la vallée de la Risle. Donc, grandir dans les Yvelines, c'était un parcours relativement simple. Je suis allée à l'école de façon classique. Par contre, c'est vrai que j'ai très tôt ressenti le parcours professionnel que je voulais suivre, à savoir l'architecture. Et c'est vrai que pour le coup, je suis plutôt rentrée par le jeu, puisque les jeux que j'affectionnais particulièrement, c'était les jeux de construction, Lego, Playmobil. Donc ça, c'était plutôt ma tendre enfance. Et puis ensuite, au collège, dès que j'ai pu jouer aux jeux vidéo, j'ai fait les classiques, les Sims, SimCity 3000 pour l'urbanisme. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi créé des jeux avec ma grande sœur, où on avait une agence immobilière et on façonnait et on fabriquait des fiches de biens immobiliers à vendre. Et c'est vrai que du coup, on avait la fiche classique qu'on peut voir aujourd'hui sur les sites. Ensuite, j'ai fait en sorte de suivre une école d'architecture, donc Paris-Val-de-Seine. C'était un enseignement assez riche parce que j'y étais je suis rentrée en 2010, donc il y a 14 ans, et c'était juste après la réunification de plusieurs écoles parisiennes. Donc on sentait encore une grande richesse d'enseignement. J'imagine que c'est aussi le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment les identités de chaque école qui étaient encore présentes. Donc j'ai surfé un peu là-dedans et je me suis j'ai formé mon propre parcours. Où très tôt, en fait, je l'orientais sur la question de la réhabilitation et de la transformation des patrimoines bâtis, et surtout ceux du XXe siècle, et surtout ceux qui sont souvent mal perçus. Donc les grands ensembles, j'ai travaillé sur l'action de la mémoire à Drancy, j'ai travaillé sur un grand ensemble à Montreuil, et puis un grand ensemble à Rennes. À chaque fois, c'était avec des profs différents. Et donc, ça m'animait, et j'y trouvais plusieurs raison, à savoir des engagements durables, à savoir construire, reconstruire la ville sur la ville.
Oui, c'est bien parce qu'on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui.
Non, pas autant, c'est vrai. Mmh.
Bravo, c'était un peu visionnaire. C'est bien.
Un petit peu, mais c'est vrai que ça émergeait déjà un peu.
Oui, à l'école.
Il commençait à y avoir quelques masters spécialisés. Mmh. Et voilà, et c'est aussi, après on en parlera du coup, mais ce qui m'a guidée dans mon parcours professionnel.
Alors justement, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte, Mathilde?
Moi j'ai été diplômée donc, de l'ENSA Paris-Malaquais en 2014. J'ai eu l'occasion cette année-là de partir vivre à Londres. Donc j'ai fait du porte-à-porte là-bas pour mon premier travail. J'allais voir les agences d'architecture londoniennes avec mon portfolio et mon anglais un peu bancal, quoi, on va dire. Bon, ça m'a pas empêché de trouver rapidement du travail. J'avais très envie de m'orienter donc vers des métiers plutôt urbains. Donc c'était une grosse agence qui avait tout un pôle d'urbanisme. J'y ai passé un an et demi. Qui s'appelle Studio Y West, S-E-W. Et puis, à un moment où j'avais encore en tête un peu les thématiques très liées au territoire francilien, c'était le moment où il y avait tous les appels à projets pour le Grand Paris. J'avais aussi, pendant mes études, beaucoup travaillé sur les questions de la mobilité et plutôt les lieux de la mobilité, donc les gares et tout ça, par rapport à ce que je vous disais, qui était arrivé très tôt, mais plutôt d'un aspect un peu sociologique presque, en tout cas cognitif, comment créer des espaces à partir du cognitif. Donc j'avais encore cette envie de développer ça. Donc je suis revenue à Paris. Là, j'ai intégré l'agence Arepville, qui est le département un peu urbain d'Arep, qui est un gros bureau d'études de la SNCF. C'est une très grosse agence.
Oui, oui, c'est la première en France.
En première, voilà. Où là, j'ai passé 2 ans, je crois, à travailler essentiellement sur des pôles gares, des études urbaines de pôles gares, etc. Et puis ensuite, j'ai eu envie de diversifier un petit peu ma pratique aussi parce que je trouvais que la question de l'urgence climatique, la transition écologique, etc., devenaient des sujets assez centraux et que finalement, je me perdais un peu dans ces sujets gares. Finalement, ça n'allait pas forcément dans le sens, même si c'était un sujet de prédilection, j'avais envie de diversifier ma pratique. Et donc, j'ai intégré l'agence ANMA, qui est anciennement l'agence de Nicolas Michelin, voilà. Et c'est là où on s'est rencontrés avec donc Camille, Léna et Pierre. Et où on a décidé de... Ça, c'est peut-être la question d'après. De faire un projet ensemble, aussi indépendamment de l'agence.
Voilà. Bon. Donc, et vous, Camille?
Alors, du coup, j'ai été diplômée en 2016 à l'école Paris-Val-de-Seine. J'ai souhaité poursuivre justement cette réflexion sur le patrimoine bâti, ou en tout cas l'existant, en m'orientant vers des architectes spécialisés dans le domaine. Donc j'ai toqué à la porte d'agences spécialisées dans la reconversion et la restauration des monuments historiques, parce que je me disais que c'était une partie d'enseignement qu'on avait peu eu à l'école, et que c'était intéressant de connaître tout ce volet-là pour apprendre aussi des métiers de l'artisanat, etc. Du coup, je suis allée 2 ans chez 2BDM, qui est une des grosses agences parisiennes dans ce domaine-là, puisqu'elle est constituée de 4 architectes des monuments historiques. J'ai eu la chance de travailler au sein du... Les locaux étaient au château de Versailles, et j'ai pu travailler sur des patrimoines, en tout cas des bâtiments classés et inscrits. Donc j'ai pu... passer beaucoup de temps à effectuer des diagnostics sur les bâtiments existants, apprendre à évaluer leurs pathologies, etc. Donc c'était vraiment un vocabulaire de soins apporté aux bâtiments. C'était passionnant.
J'imagine.
Mais assez conservateur. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu éloignée de ce patrimoine finalement qui n'est pas valorisé, qui n'est souvent pas inscrit. Et qui, on pourrait dire, est plus...
Très négligé.
Oui, très négligé. Et puis une architecture du quotidien. Et puis qui accueille et qui fait vivre des gens, l'habitat. Et donc, du coup, j'ai quitté cette agence au bout de 2 ans. Et puis, je suis rentrée chez ANMA parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un projet de reconversion d'une ancienne halle industrielle à Clermont-Ferrand, une ancienne halle Michelin, qui fait... un foncier qui fait partie intégrante de la constitution de la ville de Clermont-Ferrand. Donc c'était un très gros projet qui nous a occupé 3 ans, enfin toutes les études, où on intégrait dans ce patrimoine industriel des logements, enfin une grande richesse de programmation. Et après, j'ai pu poursuivre sur un autre projet au sein de cette agence-là, qui était la reconversion de l'ancien hôtel-lieu de Rennes. Donc pareil, très intéressant, avec la notion d'urbanisme transitoire, donc occupé temporairement. On peut dire que c'était un petit hôpital Saint-Vincent-de-Paul, grand voisin, mais à Rennes. Donc, j'ai travaillé 3 ans aussi dessus, donc on a rendu le pro et j'ai décidé de m'envoler vers Nantes pour travailler dans une agence avec une échelle un peu plus réduite et retrouver un peu le lien avec la commande publique.
Et cette agence, c'est
Mabi Reich, architecte.
Ok. Et donc là, vous y êtes ?
J'y suis.
D'accord.
Récemment.
Et ils sont situés où à Nantes ?
Ils sont situés à côté de la gare de Nantes, dans le quartier des Olivettes.
D'accord. Bon. Et vous, Mathilde ? Vous êtes toujours chez Anma ?
Toujours chez Anma. Toujours chez Anma. Une agence que j'aime bien, où il y a quand même une multitude d'échelles de projets, en tout cas en urbanisme. On va aller de la très petite échelle à travailler vraiment avec les architectes sur un petit îlot de quelques logements, comme travailler sur des très grands territoires. J'ai eu l'occasion notamment là, pendant 2 ans de travailler sur l'étude de la reconversion et de la requalification de la zone industrielle de Limay-Porcheville. Donc, qui est une énorme zone industrielle le long de l'axe Seine, qui comporte un grand port à Ropa, port de Paris, port industriel donc. Et c'était assez intéressant parce que j'ai eu beaucoup de liberté dans l'approche que j'ai pu avoir vis-à-vis d'un territoire industriel. Et ça, comme le disait Camille, c'est des territoires qui sont aujourd'hui un peu délaissés, qui sont parfois même comme des arrière-villes, des zones qu'on a envie de cacher, de dissimuler, qui en même temps sont aussi essentiels pour le fonctionnement des métropoles, etc. Donc, essayer de retrouver un peu un rapport au sol, aux services un peu écosystémiques, à la nature, etc. Dans ces lieux, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Et donc, j'ai bien aimé croiser finalement la difficulté de rendre ces lieux attractifs. Et retrouver aussi le paysage, parce que c'est un site qui est inscrit aux portes du Vexin, donc du parc régional du Vexin. Donc c'est un lieu qui a aussi des grandes qualités géographiques, naturelles, etc. Donc de croiser les thématiques un peu brutes et les thématiques plus sensibles et naturelles.
Votre parcours est encore assez neuf, mais il y a toujours cette question dans Comme d'Archi que je pose à tout le monde, qui est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Bilan, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cherche du mouvement ou pas ? Et puis voilà, et c'est aussi pour ça que on a eu envie, enfin en tout cas que j'ai eu envie de faire Repens avec l'équipe, parce que je crois qu'on était tous un peu animés par cette volonté là, et c'est pas anodin qu'on l'ait fait à ce moment-là de nos parcours. C'était de retrouver un peu cette liberté, puisqu'on est toutes et tous au sein d'une agence et on n'est pas à notre compte. Donc c'était une façon de
vous tester,
de nous tester quoi.
Mmh. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, Mathilde ? Peut-être c'est pour vous répondre à cette question.
Oui, après. J'ai un petit peu répondu avant, donc peut-être ça va être un peu
redondant.
Mais moi, j'aime bien cette question parce que je me souviens très bien à la sortie de l'école qu'avec des amis, on s'était posé la question comment on se voyait dans 10 ans. Et moi, à l'époque, je m'imaginais, donc à mon âge d'aujourd'hui, parce que ça fait 10 ans pile poil que je suis diplômée, que j'aurais monté mon agence, que je serais devenue spécialiste des gares, que j'aurais aussi trouver une espèce de spécialité dans la façon d'inscrire la sociologie des lieux de la mobilité au cœur de la pratique. Et je me disais que j'écrirais des livres, que je ferais des films expérimentaux sur le sujet pour essayer de saisir et de traduire comment le cognitif de l'humain pourrait dicter des formes d'espace. Bon, finalement, j'ai pas fait tout ça, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc, je suis quand même.
En fait, vous êtes très ambitieuse.
C'est ça. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose que je suis assez fière d'avoir, je pense, gardé et qui a été assez présent dans notre expérience de Repens, plus particulièrement, parce que, comme Camille le disait, dans les agences, il y a forcément plus un cadre, il y a une commande très précise, il y a des enjeux d'emploi du temps, de consignes, presse de travail, etc. Là, on a vraiment eu l'occasion de pouvoir avoir donc toute cette liberté d'expression et de pouvoir aussi tester des modes de représentation. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours porté, même pendant mes études, de comment représenter l'architecture, représenter même des choses qui n'existent pas visuellement ou physiquement. Donc tout ce qui est de l'ordre du sensible, du cognitif, d'essayer par un dessin ou par une représentation, mettre dans une compréhension du territoire assez spécifique à ce territoire. Et dans Europan, il y a vraiment eu, moi j'ai trouvé, c'est là que j'ai senti cette reconnexion avec mon passé lointain de jeune architecte ou même d'étudiante, voilà, d'avoir eu toute la liberté de tester un peu ces modes de représentation-là pour raconter le territoire d'une façon très, j'allais dire, personnelle et partagée, parce qu'en fait, on a toutes et tous mis un peu notre vécu et notre parcours aussi dans ce travail.
Mmh. Ouais. Alors, justement, on va aborder ce fameux projet, même si on l'a déjà bien évoqué. Comment vous avez constitué votre équipe ? Parce que je vois qu'il y a un philosophe. C'est que des copains ou...
Camille, Léna, Pierre et moi, on s'est rencontrés à l'agence ANMA, donc on se connaissait déjà. Et puis Léna, Pierre et Julie, donc la philosophe, se connaissaient via le DPEA de recherche à la Villette. Donc ils s'étaient rencontrés par un autre cercle que celui de l'agence. Donc on ne se connaissait pas toutes et tous. On était quand même une majorité, on va dire, à se connaître les uns les autres. Et donc l'histoire a commencé un peu avec ce désir partagé de créer quelque chose de singulier au travers de notre diversité de parcours et de vécu aussi. Je pense aussi qu'on partageait des valeurs communes vis-à-vis de notre positionnement aujourd'hui, de vouloir faire de l'architecture, de l'urbanisme, de paysage au service de plutôt d'une commande publique. Je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a énormément motivés. Je sais pas, Camille, tu veux compléter, c'est pas évident.
Non, mais c'est bien.
C'est assez spontané aussi de aller, on se lance, on y va.
Ouais, c'est bien résumé, c'était ouais. Ça. Et en fait, je pense que la richesse de l'équipe, en tout cas, ça a été sa pluridisciplinarité. Et ça nous a permis de choisir aussi un site, Bernet Terre de Normandie.
56 kilomètres carrés. C'est quand même costaud.
C'est costaud. Ouais. Mais site qui était représenté, qui en tout cas a été indiqué comme une... Parce que pour Europan, il y a des échelles de sites. Donc il y a la notion de réflexion à l'échelle grand territoire, donc qu'ils appellent XL. Il y a la réflexion plus urbaine, donc l'échelle L. Et l'échelle S, qui est une échelle plus architecturale ou paysagère, mais à petite échelle. Et en fait, ce site, donc le territoire Bernet, Terre de Normandie, regroupait la catégorie XL et la catégorie S. Et en fait, on s'est dit que c'était la bonne échelle pour notre équipe, puisqu'on avait une multitude d'expériences.
C'était un zoom et un dézoom.
Voilà, c'est ça. Et en fait, on était absolument persuadés que cette façon de travailler, donc en zoomant et en dézoomant, allait enrichir et nourrir la réflexion. Et c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir eu Julie, qui est philosophe, ça a aussi permis de renforcer en fait une fiction, ce qu'on a vraiment souhaité aborder le projet via la fiction, parce qu'on avait toutes et tous envie d'être embarqués dans une histoire et d'embarquer les autres avec nous.
Ouais, donc vous avez élaboré un récit. Et alors, quel est-il ce récit ?
Donc Europan 17 sur le thème ville vivante propose 10 sites en France, vous le disiez tout à l'heure. Notre choix s'est dirigé assez rapidement vers celui de la vallée de la Risle et de la Charentonne, donc de Bernet Terre de Normandie. Le choix de ce site portait essentiellement sur la thématique qu'il soulevait, notamment la question d'une ancienne vallée industrielle qui a été un peu désertée par ses habitants, où il y a extrêmement peu d'habitants finalement aujourd'hui. Et en même temps, c'est un territoire géographiquement très marqué, avec toute l'imaginaire un peu autour de la brume, des peintures impressionnistes. On avait en tout cas, je pense, senti que c'était un territoire dans lequel on pouvait croiser un peu des imaginaires un peu sensibles, et que ça allait insuffler un peu une ligne directrice de projet. Et donc, on est parti de l'idée de la sueur, parce que c'était ce rapport à l'eau, à la brume, à la présence des rivières et au corps qui transpire. C'était une façon de trouver un peu un support conceptuel et en même temps extrêmement concret, la sueur, qui était aussi une façon de parler d'un territoire sans forcément faire comme on a l'habitude de le faire, en le sublimant, en utilisant des termes valorisés, en montrant que ce qui est beau, que ce qui est idéalisé finalement. Et donc on avait aussi envie de parler, de mettre un peu en écho différentes thématiques comme une manière de faire parler et faire exister tous les corps vivants et inertes dans ce qu'ils ont d'adhérent et de glissant, de sale et de propre, de trouble et de clair. Et donc de cette façon, parler un peu d'un... Enfin, fabriquer de nouveaux imaginaires pour une mise en effort collective, attractive et transpirante.
Rentrer dans le projet par le biais de la transpiration, c'était aussi une façon de pouvoir intégrer plein de données, plein de mises en récit, plein de façons de mettre en récit, puis aussi de façon d'incarner le projet. Et en fait, la transpiration, ça nous permettait d'évoquer le passé industriel, donc l'effort des corps physiques, etc., la présence de l'eau et sa façon de... son métabolisme, en fait. Donc, la pluie qui s'écoule, l'eau qui transpire avec la brume, etc. C'était aussi une façon d'évoquer le réchauffement climatique. Dire qu'est-ce qu'on fait. Enfin, les territoires normands, quand on est sur les plateaux, c'est des plaines agricoles où il n'y a plus beaucoup de... Il y a eu des remembrements à tout va, donc il n'y a plus beaucoup d'espaces végétalisés. Il fait très chaud. Donc la vallée, finalement, c'est une force. Donc il faut que ça puisse devenir un espace où on s'y sent bien. Et c'est aussi une façon de faire transpirer une méthode sur le territoire où, en fait, on sait que notre proposition, elle ne va pas pouvoir être réalisée comme ça, telle qu'on l'a dessinée. Mais on a voulu vraiment proposer une méthode pour accompagner les acteurs et leur montrer qu'en fait on avait cette volonté de se mettre en action, de transpirer avec eux et de faire en sorte de faire avancer les choses ou en tout cas de proposer et de réaliser des projets ensemble.
Alors ça se concrétise comment en fait? Si aujourd'hui on vous dit on réalise ce projet, qu'est-ce que vous laissez de côté et qu'est-ce que vous faites par rapport à votre proposition?
C'est facile.
Je pense qu'on garde en tête vraiment cette idée, parce qu'on a aussi proposé dans le projet une méthodologie de mise en discussion, de mobilisation des acteurs. Mobilisation qui pourrait avoir lieu dans plusieurs sites qu'on a identifiés sur l'ensemble du territoire de la vallée. Et donc je pense que la première étape, moi j'ai envie de dire, ça serait d'animer ou en tout cas de faire se rencontrer tous ces acteurs du territoire. Et acteurs, ça inclut aussi les habitants, bien évidemment, pour un peu rediscuter, peut-être représenter le projet et discuter dès le départ de ce par quoi on commence. Dans le projet, on avait proposé, on voulait vraiment pas être interventionniste, créer de grandes infrastructures, etc. Enfin, c'était vraiment presque une trace, on l'appelait le sillage. Donc c'était un lieu, un espace de déambulation pédestre et pour les cycles également dans le fond de vallée. Il permettait de traverser de part et d'autre la vallée, d'aller aussi, pendant sa traversée, chercher des chemins de traverse qui allaient désenclaver certaines communes, redonner un accès au fond de vallée à des communes un peu isolées. Et donc, pour constituer un peu ce parcours... Je pense que ça serait nécessaire de commencer par mettre en discussion déjà les propriétaires qui...
Les usagers.
Les usagers, les habitants, les...
C'est un peu de la concertation.
Oui, voilà.
Sauf que là, c'est de la grande échelle.
Oui. Pour moi, c'est la première étape. Avant de vouloir absolument mettre en place notre projet, c'est déjà de discuter de qu'est-ce qui peut être gardé dans ce projet et porté, ce sur quoi on va se concentrer.
En fait, ce sont les acteurs du territoire qui décideraient, qui arbitreraient vos propositions, c'est ça.
Oui, complètement. Et après, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que là, on parle de l'échelle du territoire, mais on pourrait aussi se dire c'est assez complémentaire et ça se rapproche avec de la méthodologie qu'on a mis en place lors de l'élaboration du projet. Mais je pense qu'on pourrait aussi, en parallèle de ça, intervenir à l'échelle vraiment S ou XS. Et typiquement, de par nos compétences, etc., proposer déjà de faire des vrais diagnostics des 4 sites, parce que en fait il y a la vallée de la Rille, mais on a travaillé sur 4 sites, donc 4 anciennes friches industrielles qui sont toutes aujourd'hui plus ou moins à l'abandon et qui sont complètement en tout cas elles sont magnifiques parce que c'est des friches, mais justement l'eau s'infiltre partout et donc ça entraîne certainement
ce sont des
la ruine
un peu fantomatique,
un peu, enfin il y a vraiment une âme, enfin quand on s'y promène, on sent qu'il y a une autre vie qui s'y développe sans nous. Et ça, c'est sûr qu'on veut aussi composer avec, mais on pourrait très bien se dire que la première étape aussi, à l'échelle S, c'est de faire ce diagnostic et de savoir ce qu'il serait possible de faire.
De garder, de
démolir, de dépolluer, parce qu'il y a vraiment cette question de dépollution, etc.
Mais alors ce récit...
C'est vrai qu'on est rentré par la porte de la sueur, mais on s'est basé sur toutes les données et les rencontres qu'on avait pu faire lors de nos nombreuses visites sur site. Donc la rencontre des acteurs, les déambulations qu'on a pu faire, etc. Et ça nous a amené en fait à catégoriser les types de transpiration pour aussi faciliter le lecteur à nous suivre et à comprendre nos intentions architecturales, urbaines et paysagères. Et on a très tôt donné des couleurs à notre projet, qui faisait référence du coup à 4 types de transpiration, 4 types de corps. Donc on avait la catégorie biotopique, la catégorie
esthétique,
la catégorie
adhérente,
et on en avait une dernière qui était productive. Donc les 4 avaient des couleurs, ils faisaient écho à des types de corps en action, etc. Enfin en action, ou pas, ou,
ou inerte.
Ou inerte, ouais. Qui serait à révéler, etc. Et en fait, on s'est servi du sillage qui permettait de relier les 4 sites pour enclencher des actions le long de ce sillage. Donc à l'échelle architecturale des 4 sites, ça engendrait des reconfigurations spatiales, de la construction de nouveaux bâtiments, ça a aussi donné une couleur de programmation. Et en fait, du coup, Mathilde parlait de du travail de recherche de représentation graphique. Ça nous a permis de tout de suite comme ça de donner une couleur à notre projet et de guider un peu le lecteur sur la façon dont on voulait les faire rentrer par la petite porte projet.
D'accord. Alors peut-être que pour nos auditeurs, ils pourront visualiser si vous voulez bien nous donner les images de votre projet, qu'on puisse les partager sur la page Instagram, comme d'Archi Podcast, ce serait super pour qu'on le visualise. C'est parce que ça peut paraître un petit peu énigmatique et conceptuel, mais en général, les planches des Europan sont absolument superbes. Et Europe en 16, elles ont été très likées. Alors j'espère que ce sera pareil pour Europe en 17. Voilà.
On le fera avec plaisir.
Ouais.
Et aussi, j'invite les futurs auditeurs à aussi lire les textes sur les planches, parce que ça fait vraiment partie un peu de l'expérience un peu incarnée et un peu immersive du travail qu'on a cherché à mener. Il y a la représentation graphique, il y a aussi le choix de ces 4 couleurs qui donnent un peu cette grille de lecture et de compréhension du projet en tant que tel. Et aussi tout le récit urbain de la traversée des 4 sites, mais aussi du sillage, qui apporte vraiment, je pense, une dimension hyper intéressante au projet.
Sachant qu'à la fin de ce récit, il y a des mises en... Enfin, il y a des récits fictifs. Il y en a 4, 1 sur chaque site. Et ça donne aussi un aperçu de ce que ça pourrait être dans 50, 200 ou 400 ans. Donc on a essayé de jouer la carte de la science-fiction pour aussi permettre aux acteurs, et puis même aux personnes qui auraient la curiosité de regarder nos planches, de créer aussi leur propre imaginaire à partir de ce qu'on a pu proposer.
D'accord. C'est en fait une base.
Oui.
Une plateforme à partir de laquelle on peut...
Tout est encore à écrire, hein, c'est sûr.
Bon. Donc, vous imposez pas quelque chose, vous proposez en fait. Alors justement, vous êtes encore au début, même si vous avez quelque part 10 ans de pratique, vous êtes encore très jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous. Et là, vous venez de le démontrer, votre profession vous amène à projeter sur un temps long. Donc vous faites quasiment quotidiennement ce travail de projection, et même quotidiennement, et pour ça il faut de l'énergie pour se lever le matin. Et on a une actualité aujourd'hui qui est assez plombante de tous les côtés. On a juste envie de mettre le bouton de l'actualité sur off, mais en même temps on peut pas complètement se détacher parce que il faut aussi savoir d'où vont venir les coups. Donc il faut un peu anticiper si on veut rester vivant sans trop dramatiser, mais c'est quand même, il y a quand même des réalités difficiles. Et c'est le monde de demain, c'est le vôtre en fait. Quel éclairage vous donneriez aux profanes, aux gens qui vivent le quotidien sans se poser toutes ces questions-là? Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter dans votre savoir projeté?
Moi j'ai envie de dire que peut-être il y a quand même donc une certaine inquiétude ambiante qui peut être un peu plombante, comme vous disiez. Moi, j'ai espoir, en tout cas, c'est un objectif que je me donne, c'est de transformer un peu cette inquiétude ambiante en une force de créativité, de créer justement, de se réinventer, de ne pas se laisser trop fortement imprégné de cette inquiétude qui peut paralyser, mais d'être proactif et par la créativité, je pense que ça peut en tout cas aider à
avancer.
À avancer.
À trouver des réponses aussi.
Oui.
Et vous, Camille?
C'est difficile.
Oui, c'est une question difficile.
C'est vrai
sans,
que je pense...
Sans être donneur de leçons, mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez des clés grâce à vos études et votre parcours.
Bah, c'est vrai que c'est un parcours et un métier créatif. Et souvent, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. La création, c'est... En tout cas, moi, ça fonctionne particulièrement comme ça. C'est quand il y a des contraintes. Faire un projet, en fait, c'est résoudre toute une liste de contraintes pour faire en sorte de... Bah, pour les assembler et puis en faire quelque chose de simple, évident et... de proposer peut-être pas la meilleure des solutions, mais au moins une solution valable. Et c'est vrai que du coup, je pense que quand on est dans des contextes tels qu'on le vit aujourd'hui ou que d'autres ont pu le vivre d'autres moments de l'histoire, je pense qu'il faut puiser en soi pour trouver des ressources pour aller de l'avant et proposer des choses. Et j'ajouterais peut-être quelque chose qui fait aussi partie de nos compétences architecturales, paysagères et urbaines. C'est que, et puis c'est aussi un cours que j'avais suivi en master en quatrième année, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'on est dans un contexte global, mais qu'il y a aussi des cultures locales qu'on peut du coup aller puiser et jongler justement avec ces échelles-là pour... avoir conscience de ce qui nous entoure, mais savoir aussi qu'il peut se passer des choses très belles à une petite échelle. Et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a cette tendance qui revient, qui réapparaît quand on voit les jeunes architectes qui se réintéressent aux méthodes de construction un peu plus traditionnelles, locales, etc. Je pense qu'il faut s'en saisir, quoi, et aller de l'avant.
Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Alors voilà, comment imaginez-vous le monde de demain?
En fait, j'ai envie de répondre à cette question, mais plutôt dans comment j'espère le voir demain.
Oui, mais c'est parfait. Il faut se l'approprier.
Moi, j'espère quand même qu'il va y avoir une prise de conscience collective. On ne peut pas rêver mieux vers un ralentissement, une reconnexion à la matière, au physique. Et au réel, parce qu'on est aussi à l'ère du numérique et de la mondialisation, c'est aussi la dématérialisation un peu même de l'architecture. On peut ça, se demander si on n'a pas aussi un métier qui a vocation à disparaître, aussi tous les enjeux économiques qui ne vont pas très bien. Voilà, pose aussi la question de notre pratique et de notre métier. Donc, moi, j'accorde énormément d'importance et d'espoir à ce ralentissement, à cette reconnexion. Et aussi,
On aura toujours besoin d'habiter.
Oui.
Et en plus, on est plus
et du
on est très nombreux.
Et de la matière. Ouais.
Moi, je pense que. Enfin, je vous invite à réagir à ce que je dis. Justement, l'architecte a cette compétence, accompagnée par les entreprises. Mmh. Et si on perd ses savoirs, comment va être demain? Si la compétence de l'architecture est complètement aspirée par le numérique, qui pourra se confronter à la matière? Qui pourra maîtriser ce que propose le numérique? Mmh. Pour rester dans un monde fait pour les humains, c'est quand même... avec tout le respect de la nature, de ce besoin de renaturation par la force des choses aussi. Voilà. Enfin bon, je vous laisse réagir.
Pour répondre à cette question, moi je le rêve un peu comme Mathilde, résilient, c'est des grands mots que je vais dire, hein, mais altruiste, bienveillant et surtout accueillant. Et j'espère qu'on soit... faire en sorte de qu'il soit pas un monde qui divise et je sais que l'architecture, la ville, l'urbanisme, c'est des compétences et c'est des lieux où on peut prévenir et puis du coup accueillir.
Et où est le véritable intérêt? Est-ce que c'est de bien y vivre ou est-ce que c'est de faire du profit?
Aussi avoir peut-être en tête, enfin en tout cas sentir la responsabilité qu'on a toutes et tous individuellement, que de la façon dont on imagine le futur, dont on le projette, c'est aussi ce qui contribue à le fabriquer. Enfin ça, donc c'est aussi peut-être que chaque personne se demande comment est-ce qu'il a plus envie de voir le monde de demain que comment il l'imagine, pour être proactif même à titre personnel et collectif de ce qu'il deviendra.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes étudiants qui débarquent en école aujourd'hui?
Moi, j'aimerais leur dire de vraiment essayer au maximum de prendre l'actualité justement comme des données d'entrée au projet. De cette manière-là, essayer de créer leur propre sujet aussi. Parce que c'est assez décisif dans leur parcours, ce sera quel est leur sujet, ce qu'ils auront envie de porter plus tard comme message, et donc de ne pas être l'architecte comme on attend qu'il soit, architecte, de créer sa propre identité d'architecte. Le plus tôt possible, c'est le mieux, je pense. Aussi d'utiliser la fiction comme un outil pour les projets. S'il y a bien un moment où on peut un peu... rêver et avoir construire un peu des projets atypiques, c'est pendant les études d'archi, parce qu'après il y a forcément la rencontre avec le milieu professionnel qui va un peu plus
et l'obligation de résultats.
De résultats, tout à fait. Et donc vraiment construire un peu tout cet imaginaire pendant les études autour de la fiction, même c'est quelque chose à Malaquais qui mettait beaucoup en valeur, c'était convoquer aussi plein de médias, de médiums, la littérature, le cinéma. La photo, tester vraiment des outils, je pense, d'expression. Parce que ça va un peu consolider, je pense, cette posture aussi pour plus tard. Et puis, suivre leurs intuitions, leur instinct. Après, ça, c'est assez évident. Et aussi, aller voir les territoires. Vraiment faire du terrain, d'aller même sentir les odeurs d'un lieu, les regarder tout seul.
Candidater à Europan.
Candidater à Europan, exactement.
Dès qu'ils se sentent prêts.
Oui. S'ils ont la chance de le faire et le temps aussi, on les y encourage. Et puis dans cette idée d'aller sur les territoires, d'aller se promener, aussi l'idée de se perdre un peu dans ces lieux pour essayer de trouver un peu ce qui compte vraiment. Enfin, je pense que c'est aussi en se perdant, en essayant plein de choses, qu'il y a aussi des
bourgeons.
Des bourgeons, ouais, et des capacités ou des lieux un peu d'émancipation qui peuvent. Être rencontré en se perdant. Voilà.
Camille.
Je complète parce que je suis en phase avec tout ce qu'a dit Mathilde, mais c'est vrai que je pense, et c'est de la richesse que des études que j'ai suivies il y a 14 ans, c'est que le modèle français, il est quand même différent d'autres modèles européens. Et c'est ce qui fait la richesse de notre formation, je trouve. D'autres diront que c'est pas suffisamment spécialisé et qu'on ne forme pas suffisamment l'architecte
aux réalités.
Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, de rester pas candide, mais d'avoir la curiosité et la chance de pouvoir m'enrichir de tout un tas de spécialités qu'on enseigne à l'école d'architecture. Parce que c'est ce qui nourrit le projet, on le voit bien dans ce qu'on a proposé pour Europan. La pluridisciplinarité, c'est ce qui enrichit les propositions. Je dirais qu'il faut rester curieux, curieuse. Et surtout, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle l'est. Peut-être plus que nous à l'époque, mais d'être engagée. On le voit, les nouveaux arrivants qui sont jeunes et qui arrivent en agence d'architecture, ils sont déjà animés par plein de choses. Ils ont des convictions et je trouve qu'il faut qu'ils gardent cet engagement-là et qu'ils puissent rester intègres. C'est que souvent, quand on entre en agence, on perd ça parce que, comme vous le disiez, il y a des obligations de résultats, mais...
Après, je pense que c'est possible aussi de combiner les deux, en tout cas, la logique de rentabilité et la logique d'imaginaire, de récit, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est aussi, je pense, une responsabilité que les archis ont de faire de la pédagogie autour des métiers qu'on fait, à quoi sert ce métier, pourquoi est-ce que, quand on va présenter le contexte d'un site, on va s'attarder sur ce contexte-là. Et aussi déplacer un peu les visions, par exemple, d'un promoteur ou d'un commanditaire sur ce qui compte, ce qui est très important, un peu les invariants, les choses sur lesquelles nous, on a envie d'inscrire le projet, la base, le socle. Et ensuite, essayer de trouver une composition qui permette aussi de faire de l'économie. Parce que, comme vous le disiez, on y est obligé, ça fonctionne comme ça.
Mais à chacun son
métier.
En tout cas,
que ce ne soit pas que l'un ou l'autre. C'est vraiment, je pense, c'est, tous les enjeux ont autant d'importance. Il y a même certains enjeux, notamment l'enjeu écologique, je pense qu'il est aujourd'hui plus important que le
mais
reste.
Mais il est par défaut. Enfin, aujourd'hui, si ça n'existe pas, par défaut, ça ne va pas, déjà. Donc, mais en même temps, il ne faut pas que ça empêche. Il faut que ça participe dans ce processus de projet. Oui. Un mot de la fin.
Merci pour cet accueil et cette discussion qui fait du bien. Et ouais. Je pense qu'il faut qu'on reste toutes et tous dans la discussion.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt! Et d'ici là, prenez soin de vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.